Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne qui, depuis 23 ans, enseigne la pratique du yoga. Le terme yoga signifie « union » en sanskrit. Cette pratique ancestrale, originaire de l'Inde, prône l'union du corps et de l'esprit et l'union de l'âme individuelle, la nôtre, et de l'âme universelle, le créateur. Cette pratique se transmet originellement de maître à élève. Concrètement, le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et mental. Nous allons donc aujourd'hui en apprendre davantage sur cet art grâce à notre invité. Je vous présente Thierry Rousse. Bonjour Thierry.
Bonjour Adeline.
Thierry, merci tout d'abord d'avoir accepté de venir à cette émission. Ça fait longtemps que vous enseignez le yoga, vous allez nous en dire plus sur cette pratique. Mais avant cela, nous allons nous intéresser à votre parcours de vie. Moi, j'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a amené à cette pratique. Racontez-nous un petit peu votre enfance, Thierry.
Grand voyage. Mon enfance s'est passée dans la banlieue toulousaine. Donc, je n'ai pas eu d'éducation religieuse puisque j'ai été intégré très, très rapidement dans un sport qui est très connu ici, qui s'appelle le rugby. Donc, ça a amené plein de belles choses puisque le rugby, ça a beaucoup changé peut-être maintenant, mais à l'époque, c'était une manière aussi d'être avec des amis et de partager une passion et de faire un sport ensemble, un sport d'équipe. Donc ça a amené une dimension qui a été intéressante et que j'ai beaucoup appréciée puisque j'ai fait cette activité jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Mmh. Donc c'est resté un petit peu dans mes gènes.
Comme beaucoup de Toulousains d'ailleurs.
Et voilà, et puis progressivement... Il s'est passé des choses où j'ai fait des études en fait agricoles. Je me suis orienté vers le paysagisme. C'était quelque chose qui me plaisait. Au départ, je voulais m'orienter sur tout ce qui était un peu les eaux et forêts, puisqu'avant on appelait ça les eaux et forêts, ce qui est très pertinent puisque l'eau et la forêt, c'est intimement lié. Maintenant, c'est un nom c'est l'Office national des forêts, donc c'est différent. Puis la vie fait que je ne me suis pas donné les moyens pour accéder, ce n'était pas ce que je devais faire. Donc j'ai continué des études horticoles et ensuite progressivement j'ai arrêté un peu toutes ces activités sportives. Je faisais en autonome toujours du VTT, j'ai toujours été un fan de vélo, quoi, de VTT, un petit peu à l'extrême à l'époque, toujours pareil, puisque j'étais quelqu'un qui recherchait les sensations. Donc à travers plein d'expériences telles qu'elles soient. Donc on peut ouvrir les portes, mais là on rentre des choses différentes. Par rapport... voilà, la vie a fait que progressivement, j'ai eu une partenaire de cœur qui a été la mère de mes enfants et qui m'a amené aussi une dimension que je ne connaissais pas puisque moi je n'avais aucune notion de réincarnation par exemple ou de loi de cause à effet, etc. Donc ça c'est une dimension qu'elle m'a amenée, je la remercie. Et puis progressivement je me suis tourné à faire une pratique de yoga, donc c'était sur la région toulousaine il y a très longtemps, donc maintenant, et je me suis aperçu en fait que tout d'un coup mon corps était très calme, c'était lors d'une relaxation, mais mon mental était d'une agitation absolument féroce.
Avant ça, avant la pratique du yoga.
Ouais, voilà, avant vraiment ma pratique, vraiment avant ma pratique personnelle, je me suis aperçu lors d'un cours avec une prof, il y a longtemps, je ne me rappelle plus du tout qui c'est, d'une prof sur Toulouse, et je me suis aperçu qu'en fait, je gérais pas du tout mon mental, quoi, que mon corps était détendu, mais que j'avais une activité mentale, cérébrale, qui était immense. Et à partir de là, ça m'a vraiment interpellé, donc je continuais à faire des cours. Et puis progressivement, j'ai rencontré d'autres personnes, etc. D'autres personnes avec qui j'ai pratiqué. Puis, il y a eu un grand tournant où je suis parti en Inde. Voilà. Mmh. Pour découvrir un petit peu cette pratique, activité, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une pratique. Je dirais même une pratique du cœur.
Donc, je situe vers l'âge de 30 ans, peut-être 25 ans, ce ouais. déclic, ouais.
Voilà, j'ai toujours été attiré par des choses un peu différentes du cursus classique. Donc, je suis devenu végétarien très vite, par exemple. Je ne prône pas le végétarisme. Hein, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Ni le véganisme, d'ailleurs. Chacun est tout à fait libre. Après, je pense qu'il faut respecter la vie. Ça, c'est important. Puis, voilà, les voyages en Inde ont été très porteurs.
Alors, vous avez rencontré des enseignants là-bas ou vous êtes inscrit à des cours?
Je me suis inscrit à des cours. Après, j'avais déjà une pratique, donc je pratiquais. Donc, je n'étais pas seul, j'étais avec ma compagne qui est la mère de mes enfants. Et donc, on a beaucoup pratiqué avec des gens pas connus, des pratiquants de yoga, et c'était super. Ça a amené une autre dimension. Et on a beaucoup pratiqué, on pratiquait tous les jours puisqu'on avait le temps. Et donc ça a amené vraiment une dimension. Après on a fréquenté...
Et tu as vu déjà beaucoup de différences entre les cours que tu as suivis en France et ceux que tu as pu suivre en Inde ?
Non, il y avait des trames qui étaient similaires. Après, suivant la formation des profs, ça peut changer. Donc, on peut dire qu'il y a deux yogas, il y a un yoga vraiment du sud et un yoga du nord aussi.
Oui, alors tu vas nous décrire, toi, parce que moi j'ai donné une définition un peu Wikipédia. Hein,
mais alors, non, mais c'est très bien, le yoga c'est très très vaste, effectivement ça veut dire l'union du corps et de l'esprit, mais dans le Hatha yoga, A c'est le soleil, Ta c'est la lune, moi je fais du Hatha yoga. Donc c'est vraiment l'union du soleil et de la lune, c'est-à-dire le soleil c'est vraiment une énergie d'action. Et la lune, c'est une énergie de sensation. Donc, c'est amener vraiment la symbiose des deux. Pas donner la priorité à l'un ni à l'autre. Et donc, on va au-delà de l'équilibre, c'est-à-dire on va vers une stabilité. Et ça, c'est super intéressant parce que ça fait écho dans notre vie, dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on fait, on fait, on passe notre temps à faire, à faire, à faire. Et il y a une bonne question parfois à se poser, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Parce qu'on est toujours dans l'action, on est très peu dans la sensation. Et c'est cette dimension, moi, qui m'intéresse aussi à travers cette pratique. Donc le Hatha Yoga, c'est l'union de ces deux énergies à l'intérieur du corps, qui est symbolisée par les mains jointes. Donc c'est même pas religieux. Hein. Souvent, même dans la tradition du Hatha Yoga, ils avaient leur propre maître, c'était de maître à disciple. Ils ne suivaient pas obligatoirement des rituels. Donc, quand je parle de religion, c'est souvent avec des rituels. Il y en avait quelques-uns, mais après, c'était des chants ou des mantras à faire, etc. Puis, progressivement, en ayant vécu ces expériences, j'ai participé à la venue de Dalai Lama en 1993 à l'Institut Vajrayogini à Lahore, donc qui est toujours un centre bouddhiste. Donc ça, ce fut une belle expérience, une expérience intéressante, vraiment.
Tu as pu le rencontrer toi-même ou...
On l'a rencontré parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Ouais. C'était en 1993, donc ça date. Oui, on pouvait le croiser, puis avec tous les bénévoles, parfois il y avait des réunions, il était présent, et il était accessible, et avec beaucoup de compassion et d'amour toujours. Ça, c'était super agréable. Puis suite à ça, on est reparti en Inde, donc je dis « on » puisque j'étais accompagné, pour justement affiner un peu plus l'expérience indienne, et la pratique aussi. Donc là, on a été plus dans la culture indienne, c'est-à-dire on s'est immergé vraiment un peu hors circuit touristique, avec ce que ça peut entraîner hein, comme difficulté. Toujours avec une pratique de yoga, donc de Hatha Yoga, c'est-à-dire une pratique de posture, une pratique d'intériorisation aussi, qui peut se faire à travers les postures, ou qui peut se faire après, et une pratique de souffle. Mais ça, j'ai beaucoup plus affiné ensuite. Donc, au retour, j'ai beaucoup voyagé et donc j'ai été toujours en compagnie de cette personne. Je veux dire son prénom, c'est Hélène. Toujours en compagnie d'Hélène, on est parti même jusqu'à Los Angeles, enfin on a un peu bourlingué. Et puis après on a eu envie de s'installer, et on s'est installé pas très loin de à Lavor, donc pas très loin de ce centre bouddhiste. Ensuite, plein de choses sont passées, évidemment, il y a une famille qui a commencé à se mettre en place. Et à partir de là, j'ai voulu vraiment affiner la pratique du yoga, parce que je sentais qu'au fond de moi, j'avais envie de partager mon ressenti, mais il me manquait des éléments. Et donc, ce qu'on me proposait ne me convenait pas autour de moi, parce que ça me convenait pas. J'ai appris aussi à m'écouter, même si j'étais quelqu'un qui était relativement impulsif. Et voilà, j'ai réussi, à travers la pratique, puisqu'on est vraiment responsable de soi-même, même si on a une pratique, ou même si on va dire on a un maître ou un gourou, il va nous amener peut-être une bougie pour éclairer des parties obscures à nous, mais c'est nous qui orientons la bougie pour éclairer ces parties-là. Et donc après, j'ai fait l'école de yoga traditionnel de Toulouse, avec un directeur de l'école, qui s'appelait Robert Côté, puisqu'il est décédé maintenant, et qui lui a vraiment beaucoup pratiqué en Inde dans les années 70, et a rencontré des maîtres, a pratiqué, et donc il nous a transmis ça, puisqu'on c'était une école, donc on était plusieurs. Et ça me correspondait complètement, parce qu'il y avait un aspect très physique, dans la posture, de garder les postures longtemps, il y avait beaucoup de respiration, de ce qu'on appelle le pranayama. Donc ça, c'est des techniques respiratoires, donc pour amener une circulation d'énergie à l'intérieur du corps. Après, c'est très vaste. Moi, je peux en parler comme ça sommairement, sinon ça prendrait... il faudrait faire des sessions et des sessions et des sessions. Et puis bon, je suis quelqu'un qui préfère aller sur le terrain et pratiquer avec les gens que... J'aime bien faire des études parce que c'est important dans la tradition. L'étude de texte est importante pour mieux aussi comprendre ce qu'on vit et ce qu'on met en place dans sa vie. Mais bon, moi je suis très orienté sur la pratique, que ce soit de pranayama, donc de respiration, de hatha yoga, donc de pratique posturale, ou de méditation. Dans le cursus, donc j'ai fini, c'est 4 ans, 4 ans d'école.
Est-ce qu'il y a des niveaux dans la pratique du yoga, ou est-ce que c'est simplement le maître qui peut donner une indication sur le... Je ne sais pas, le niveau, le stade qu'on a atteint en termes d'expérience et de maturation, peut-être.
Dans ce cadre-là, puisqu'on est on est en Occident, donc ça passe par des écoles, vraiment avoir un maître, c'est quelqu'un qu'on a choisi et à qui on fait entièrement confiance, et ça, ce n'est pas évident. Il faut être vraiment en accord, quoi. Et c'est une de grandes difficultés en Occident, même avec certains maîtres, qu'ils soient indiens, qu'ils soient tibétains, qu'ils soient, qu'importe les origines, ou certains occidentaux qui se disent aussi issus d'une tradition. Il faut être très très vigilant, il faut vraiment le sentir au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'un maître, quelqu'un qui... Déjà, un maître ne va pas se dire qu'il est un maître, mais quelqu'un qui a une belle vibration et qui désire la partager, qu'importe ce qu'il va vivre, il aura toujours un état d'égalité par rapport à tous les phénomènes qui se passent. Et ça, c'est une dimension qui est importante. Il ne va pas obligatoirement se mettre en colère ou abuser de quoi que ce soit. Il peut dire stop à une situation, mais ça sera avec beaucoup de générosité, beaucoup de cœur. Moi, en tout cas, c'est ce que je considère comme un maître.
Donc toi, tu as plutôt connu ton maître ici à Toulouse.
Moi, j'ai connu en fait les personnes qui ont formé en fait les maîtres du directeur de l'école de Toulouse. Mmh. Et donc j'ai rencontré en Inde aussi, et que j'ai rencontré puisque un qui est venu ici, un de Madras, qui est décédé aussi. Enfin, ils sont tous décédés. Et donc après, j'ai rencontré aussi une personne qui m'a aidé sur mon chemin à l'Institut Vajrayogini, qui est décédé aussi. Et donc moi j'ai fait des vœux, aussi j'ai pris des vœux, ça ne veut pas dire grand chose, ça veut dire que j'ai une éthique que je suivais déjà. Moi je souhaite être, ne pas tuer, ne pas voler, voilà, il y a des éthiques, c'est pas parce que c'est lors d'une cérémonie dite bouddhiste que c'est pareil dans toutes les traditions, on se respecte quoi, si on est plein d'amour pour soi, on se respecte. Et donc j'ai rencontré une personne aussi avec qui j'ai fait un travail sur l'énergie, une occidentale, et qui m'a vraiment amené... à une introspection profonde sur ma vie. Et ça, je la remercie encore. Et pour moi, c'est une reine de l'amour. Voilà, pourtant elle est âgée. Et c'est une personne qui est toujours là et à qui je souhaite une longue vie. Voilà. Ça, c'est un cursus assez rapide. J'ai rencontré d'autres personnes aussi, évidemment, des ostéopathes aussi qui m'ont aidé, des homéopathes qui m'ont aidé dans mon cursus, puisque j'avais une demande pour aller bien dans ma vie, donc j'ai essayé plein de choses. Mais je me suis aperçu, et je pense qu'on va venir après...
Quand tu parles de demande dans ta vie, soyons clairs, c'est une demande... personnel, c'est toi vis-à-vis de toi, c'est ça ?
Oui, une demande de mieux-être, mm-hmm. puisque j'avais des perturbations. Il pouvait y avoir de la jalousie, il pouvait y avoir de la colère, il pouvait y avoir des choses que tout... Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est facile, hein, autour de soi. Souvent, c'est ce qui dénote autour des personnes. Et il ne faut pas avoir... Je n'ai pas honte de dire ce que j'étais, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas vécu
exactement.
Tous ces événements-là. Quoi. Donc, c'est pas grave, on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. Donc, il y avait une recherche, mais déjà très jeune, j'avais une recherche. Parce que je me rappelle, à l'âge de 9 ans, je ne comprenais pas pourquoi il y avait de telles différences entre les êtres humains. Pourquoi il y avait des gens qui naissaient handicapés, pourquoi il y avait ci, pourquoi moi j'étais dans une famille qui était... T'es relativement pauvre, entre guillemets, ça veut pas dire grand chose, parce qu'on peut, le tout c'est la richesse du cœur. Mais pourquoi il y avait de telles différences? Et ça m'a, les réponses, j'étais pas satisfait des réponses, quoi. Et donc après, progressivement, justement, ces lois de cause à effet, c'est-à-dire cette responsabilité de notre vie, on est responsable de ce que l'on sème et de ce que l'on récolte. Ça m'a aidé sur mon chemin, vraiment beaucoup aidé, quoi. Et ensuite, je sais pas après au niveau timing. Ensuite,
Alors moi, par rapport à ton parcours, c'est à quel moment tu t'es dit, voilà, maintenant, je pense avoir assez de connaissances, ou tout du moins, je peux prétendre. À pouvoir transmettre ce que j'ai appris, et à quel moment tu as décidé d'enseigner le yoga?
Après avoir fait l'école prof de Toulouse, parce qu'il me manquait une dimension, ne serait-ce que au niveau de la physiologie du corps, de l'anatomie du corps, etc. Et on peut l'apprendre par les livres, mais là il y avait des intervenants qui étaient bien sur beaucoup, sur la philosophie indienne, sur les textes, hein, sur plein de choses comme ça, plus la pratique personnelle, plus les postures, plus la pratique du pranayama, donc des respirations, et aussi d'être en groupe, c'est porteur. Donc à partir de là, je me suis senti prêt pour aborder certaines techniques, et progressivement le vécu, la perception et la sensation, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passé par l'action, mais la sensation vient. Par exemple, j'ai commencé à être très très à l'aise au niveau des respirations au bout de 3 ans de pratique, pas avant. Avant non, c'était du mental pur, quoi. Et où il y a eu un lâcher prise qui s'est mis en place. Lâcher prise, c'est pas volontaire, un lâcher prise, on le vit, quoi. On ne commande pas. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place. Ça a été une belle expérience.
Alors toi, tu as choisi une voie assez poussée, hein, puisque tu as voulu en faire une pratique, je dirais, de tous les jours. Tu as voulu en faire ton métier également. Mmh. Voilà, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde qui a envie de découvrir cette pratique. Et on en parlera tout à l'heure. Dans la seconde partie d'émission, si tu veux bien. Mais je t'ai demandé une petite musique pour nos auditeurs, nos auditrices, avant d'aborder la seconde partie de notre émission. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Thierry ?
J'ai choisi un morceau de Eric Aliana. C'est une personne qui était vouée avoir une carrière absolument magique, parce qu'il chante bien, il joue bien, enfin, il a tout. Et il a choisi de ne pas rentrer dans ce cursus, juste de faire des petits concerts et de donner des cours de chant. Et c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années. On a eu un très bel échange et c'était un échange sur le cœur. Et des personnes comme ça, un échange sur le cœur, c'est rare et ça a été très beau. Et donc, Je ne sais pas s'il écoutera cette émission, allons savoir, mais je lui envoie un beau message.
Bon, en tout cas, c'est effectivement un beau message que tu lui envoies, et puis à nos auditeurs aussi, qui vont certainement apprécier. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Le titre, c'est...
Je ne me rappelle plus, honnêtement, je ne sais plus.
Alors, c'est Eric Aleana, tout simplement, ouais. Et puis on va écouter ouais. Tout ça de suite. Merci.
Tamakeri, tumburana, 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 korana, tumburana, mwane dongo, hatena momwisi kani, tamakeri. Tamakeri, Nungo, Tumburana Hatena, I want to call Kurungangang, Tamakeri. Vivana, vivana, mporo, mporo, mburana mware dongo kurungangang, furungangangangangangangangangangang, he, kurungangang. Amgare, ngare o namuso vajo. Wenda mali, wena moso nungo, ndienga namo oroto. Wenda siri, wena moso mbi, ngare nga namo toto. Wind Africa, mbi, mbi enga na mu pro, pro, pro. Ngaye ke chirandona, ngaye ke so, kuru, 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 kokayano. Kuru, kuru eh, ha, kuru eh. Gang 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 g
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous retrouvons à nouveau Thierry Rousse, enseignant du Hatha Yoga. Thierry, alors nous avons vu ce qui t'a amené à la pratique du yoga et en même temps ce qui t'a donné envie de transmettre un petit peu cette pratique. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes aux gens qui souhaitent aborder cet art, commencer ou ne serait-ce que voilà, s'initier au yoga?
Donc c'est ouvert à tout le monde.
Oui.
Je mélange les personnes. J'ai pas plusieurs cours avec un cours avancé et un cours débutant, puisque je trouve que le groupe c'est très porteur. Et je vais être beaucoup plus intentionné évidemment avec des gens qui y débutent, puisqu'après il y a des trames de cours que l'on peut retrouver, il y a des répétitions, mais ça c'est normal. Donc les cours se passent dans une salle qui est assez grande, qui est sympa, sur la Vorère à Bastens. Je donne des cours aussi particuliers. Donc mes cours commencent par des échauffements. Donc des échauffements, c'est pour moi, j'ai pratiqué déjà avec même des Indiens, ils échauffaient pas. Un jour, je me suis fait mal et j'ai compris que c'était important de s'échauffer. Déjà, on est dans un climat qui parfois est très froid. On n'est pas en Inde. Et donc, il faut échauffer son corps, c'est important. Et on n'est pas assez musclé aussi pour tenir des postures. Ça, c'est évident. Donc, c'est important de se muscler. Alors, le but, c'est je fais des échauffements assez classique. On appelle ça aussi dans le yoga traditionnel. Alors après yoga traditionnel, on pourrait faire une grosse discussion là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais pas rentrer dans ce sujet-là. La tradition, qu'est-ce que ça veut dire, puisque tout change, tout évolue, rien n'est permanent. Donc ça s'appelle des kriyas, c'est-à-dire kriya, ça veut dire purification. Donc le fait de faire des mouvements, ça purifie, parce qu'il y a par exemple au niveau articulaire, une production de liquide synovial qui va amener une lubrification de l'articulation, et s'il y a des impuretés, ça va se libérer. Donc il y a cet aspect-là. Il y a des kriyas que l'on peut s'exercer avec des nettoyages, donc c'est aussi des kriyas, c'est de la purification. Il y a des kriyas subtils aussi, donc ça c'est un peu plus spécifique, donc c'est certaines postures. Donc les kriyas peuvent s'effectuer aussi par le biais d'une respiration. Voilà, il y a toute une palette que je mets en place. Donc, il prend une petite partie du cours. En général, c'est au moins une demi-heure pour être bien échauffé. Et de plus, ce qu'il y a d'intéressant vraiment, c'est que ça amène une osmose au niveau du groupe. Mmh. On peut pas arriver et rentrer de suite. C'est comme si vous vous allongez. Si vous n'êtes pas très fatigué, vous n'allez pas rentrer dormir de suite. Ça, c'est évident. Ensuite, je fais une salutation au soleil. C'est pas systématique, mais c'est quand même très, très souvent. Donc, un enchaînement de 12 postures. On ne connaît pas vraiment l'origine de la salutation au soleil. Si quelqu'un la connaît un peu plus.
Tu peux la raconter peut-être ?
Ça viendrait d'Iran.
Ouais.
Mais bon, il n'y a pas vraiment de source par rapport à ça, quoi, sur cet enchaînement de postures. Donc ça se fait au soleil, devant le soleil, évidemment. Mais le but, c'est de se remercier. Merci. Je fais une activité, je remercie le soleil aussi, parce que bon, il vient, mais c'est se remercier de pouvoir vivre une journée de plus et d'être vraiment dynamisé, puisque ça dynamise de faire des salutations au soleil. Cette pratique se fait le matin normalement, mais nous, avec les Occidentaux, c'est rare, j'ai qu'un cours le matin. Ensuite, donc, il y a cet enchaînement de la salutation au soleil, qui est basé aussi sur le souffle, etc. Il y a plusieurs variations possibles. Donc c'est un apprentissage qui se fait, je trouve, assez vite, quand je regarde autour, et qui amène une forme d'autonomie, puisque c'est un enchaînement de 12 postures. Donc la personne qui veut pratiquer, elle n'a pas besoin de se rappeler, il faut faire cette posture. Elle a un enchaînement, elle peut rester sur chaque posture une douzaine de respirations. Moi, par exemple, quand je reste une douzaine de respirations sur chaque posture, pour une salutation au soleil qui comprend deux phases, s'il me faut 25 minutes à peu près. Voilà, c'est assez long de rester 12 de mes respirations, en tout cas en posture. Et ensuite, je fais une relaxation. Donc la relaxation, Là, j'ai un objectif très précis, parce qu'on peut relâcher son corps et détendre son corps de diverses manières. Il y a des gens, ils le font tout simplement en allant boire un coup dans un bar. Là, c'est totalement différent. On va détendre son corps en posture allongée et faire vraiment tout un mécanisme pour détendre, hein, bon, des pieds jusqu'à la tête ou de toute la tête jusqu'au pied en passant par les bras, etc. Donc il y a plein de possibilités. Mais le but, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment, ça symbolise les mains jointes, l'union du corps et de l'esprit. Donc quand on est allongé, obligatoirement, ça va calmer l'esprit. Et c'est ce que je disais par rapport à mon expérience de la découverte du yoga. C'est que mon corps était détendu, mais mon esprit, j'arrivais pas à le calmer. Et donc là, l'objectif de cette relaxation, c'est de calmer notre activité mentale. Puisqu'on est constamment en activité, il suffit de s'observer le matin en se levant et de voir que de suite, on pense à 50 000 trucs, mais on pense même pas à s'asseoir et à se poser et à faire une petite introspection de 5 minutes. Tout simplement en se basant tout simplement sur le souffle. Un classique, hein. Ça c'est important puisque ça amène une détente profonde. Pourquoi c'est important pour moi? Parce qu'on est tout le temps on est tout le temps sous tension, on est tout le temps à fond. Notre corps il est tendu. Il suffit juste de regarder, on mange en 10 minutes à fond. On ne prend pas le temps de se poser pour manger, on ne prend pas le temps de prendre conscience de boire un verre d'eau, on ne prend pas le temps d'aller se promener, de marcher, de prendre conscience qu'on marche. Donc, c'est progressivement essayer de prendre conscience de ce qu'on fait. Donc, on va parler de pleine conscience. La pleine conscience, c'est une méditation qui est d'origine bouddhiste, mais qui est intéressante, qui va commencer justement à nous amener vers de l'attention, être attentif à soi. Et ça, c'est mon objectif. Donc, être attentif à ses pensées, à travers le corps. Donc la détente, c'est quand on a l'habitude, et pour des gens c'est très difficile de détendre le corps. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'amener une fluidité au niveau du corps. Donc plus le corps va être fluide, moins il va y avoir d'adhésion, de crispation, de tension, telle qu'elle soit. Et après on peut faire même des visualisations associées au souffle pour amener de la fluidité sur ces zones-là. Et ça peut vraiment amener, par exemple, des personnes qui ont une difficulté à cicatriser, une bonne cicatrisation, ou à éliminer des tensions qui peuvent être très dures, ou de la douleur aussi. Ça marche.
D'accord. Bien. Donc, ça a un impact réel sur le corps.
Pour moi, en tout cas, ça marche. Alors, peut-être, certains diront que c'est un effet placebo, mais enfin, voilà, moi, je fais ce qui marche. Après, si ça peut, des personnes, ça peut les aider, ben voilà, on sait que la méditation pleine conscience est adaptée aussi pour diminuer la douleur, donc c'est sûr, ça marche. Voilà. Et ensuite, je fais donc des postures, donc que l'on appelle asana, ces postures. Donc, c'est différentes postures. Donc, il existe plein de postures, faciles et plus difficiles, suivant notre corps. Pourquoi ? Parce que on a un corps, il faut être bienveillant avec lui. Plus on va être bienveillant avec notre corps, et plus aussi on va être bienveillant vis-à-vis de nos réactions, de notre mental, plus on va être bienveillant autour de nous. Et ça, c'est riche. Ça, c'est un beau trésor à partager, cette bienveillance. Donc, le but, c'est d'amener une fluidité au niveau du corps. Donc là, c'est un aspect énergétique. Même si le mot énergie est souvent employé, prana, ça veut dire énergie, par exemple. Donc, énergie vitale. L'énergie vitale, elle se capte à travers l'alimentation crue, plus, beaucoup plus. Elle se capte essentiellement aussi avec la respiration, le souffle. On peut arrêter de manger pendant un mois, faire un jeûne qui peut aller au-delà d'un mois pour certains. Le maître indien Sachitananda, avec qui j'ai pratiqué, il a fait jusqu'à 3 mois de jeûne sans perdre de poids. C'est possible, il capte autre chose, une énergie vitale autre. Donc ça, c'est super intéressant. On peut capter l'énergie vitale dans l'eau. On capte l'énergie vitale également sur tout ce qui est travail d'hormèse. Mais là, c'est un autre truc aussi. On capte l'énergie vitale en cultivant l'amour, la bienveillance et la compassion. Et on perd notre énergie vitale dans ce monde stressé où on ne prend pas le temps de se poser.
Voilà. Donc... Ça, c'est un petit peu tout ce que ça amène comme bienfait.
Oui, et puis il y en a d'autres, hein, ça, en parlant de certaines postures qui vont amener des étirements, donc de la fluidité au niveau musculaire, donc diminuer les maux de dos, par exemple, toutes les postures d'équilibre vont amener un renforcement profond, donc au niveau des muscles spinaux, tous les muscles, tous les petits muscles, il y en a plein qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc ça diminue les problèmes de dos, ça diminue plein de petits problèmes qu'on peut avoir. Et donc le fait aussi d'étirer certains muscles, ça permet de faciliter le mouvement du bassin par exemple et de moins forcer sur le dos, d'avoir un peu plus de tonicité musculaire aussi. Moi j'ai vu des yogis très très fins qui avaient pratiquement pas de muscles soulever des pierres dont j'étais incapable de soulever, puisque c'est une force, c'est une tonicité, on prend pas en volume mais on prend en force. Donc voilà, il y a beaucoup de bienfaits hein, qui sont apportés par la pratique, puisque également dans la pratique posturale, je vais amener aussi une respiration. L'objectif pour moi de la respiration, c'est d'amener le calme mental. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Puisque...
Est-ce que c'est difficile à atteindre, enfin, même si on ne l'atteint jamais totalement, hein, le mental, il est toujours là. Mais toi, tu vois les résultats, par exemple, avec les gens que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de temps? Est-ce qu'il faut 1 an de pratique, 2 ans de pratique?
Je pense que ça ne se calcule pas en temps. Ça se calcule au niveau du ressenti et du lâcher prise des personnes. C'est-à-dire, il y a une intention, et je pense que l'intention, c'est la chose la plus importante pour quoi que ce soit. Si on a vraiment cette intention et qu'elle est sincère, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, le problème rencontré au niveau des postures, c'est que souvent les personnes veulent faire comme le voisin ou la voisine, ou comme le prof, entre guillemets. Et c'est pas le but. Le but, c'est de se respecter. Donc souvent, les personnes vont passer dans l'effort, même si Hatha Yoga, parfois, c'est aussi le yoga de l'effort, parce que ça demande une action. Mais il faut pas oublier le lâcher prise, et c'est ce que j'ai dit au début, complètement au début. Donc ça rejoint ce que je disais au début par rapport à l'action,
oui, tout à fait.
Et la sensation. Et ces deux côtés qui sont super importants, et les personnes vont progresser beaucoup plus rapidement quand elles vont se détendre et vivre la posture, quoi. Donc après, évidemment, il peut y avoir des visualisations qui rentrent en jeu. Des visualisations, enfin il y a plusieurs visualisations qui peuvent aider aussi. Au niveau du regard que j'ai pu, oui, ça aide des gens sur l'aspect physiologique, tout à fait. Il y a des gens, des personnes qui pratiquent et qui se sentent beaucoup mieux, qui ont plus mal au dos, par exemple. Ça, j'ai beaucoup de retours et c'est super. Moi, je suis super satisfait. Des gens qui se sentent plus calmes, plus posés, qui sortaient d'une situation difficile et qui, progressivement, à chaque cours, ils s'amenaient à travers la pratique parce qu'ils sont responsables de ce qui s'amène. Hein. Moi, je propose quelque chose. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Et ça les a aidés à dépasser certaines situations difficiles parfois. On reste tous humains avec nos défaillances, nos souffrances, nos schémas. Et c'est ensuite nos identifications, parce qu'on pense être la réalité. Et ça, c'est autre chose. On va après le dépasser aussi par l'introspection et la méditation, que l'on peut faire aussi en posture. Plus vous allez rester longtemps en posture, plus c'est un niveau avancé, puisqu'il faut que le corps y soit prêt. Les maîtres de yoga, principalement, travaillent l'aspect pour évidemment faire circuler l'énergie, mais également être très stable lors des postures de méditation et de pranayama, donc de techniques respiratoires qui demandent une posture assise où le dos est droit pour engendrer une fluidité énergétique au niveau du corps.
Merci Thierry. On va marquer une petite pause.
Avec plaisir.
On reviendra après.
Merci à toi.
Sur ce que tu proposes, parce qu'il n'y a pas que des cours. On parlera de ça tout à l'heure. Alors moi, je vous propose une petite musique. Moi, j'ai choisi quelque chose d'assez classique. Je vous propose Marvin Gaye, Sexual Healing.
I need to love.
Vous êtes toujours sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques, en compagnie de Thierry Rousse, enseignant de yoga. Alors Thierry, on a parlé un petit peu des cours, à proprement dit, comment ça se passait. Je ne t'ai pas demandé le nombre de personnes que tu as acceptées dans une séance, par exemple.
Les séances vont suivant l'histoire après ou avant Covid, mais ça pouvait aller de... Le maximum que j'ai fait, c'était 30 personnes.
D'accord.
Après, je fais des cours à 3, à 4, à 5, à 10, à 12, à 17. C'est des petits groupes, là, puisqu'il faut que ça se restructure, puisqu'il y a une peur qui s'est quand même installée. Et n'oublions pas que la peur, c'est l'antithèse de l'amour.
On est d'accord. Alors, les cours durent environ combien ? Une heure et demie ?
Je fais des cours de 1h30. Là, on m'a demandé d'intervenir dans une association des cours de 1h, mais 1h, c'est difficile pour moi.
Ouais.
Il me faut vraiment 1h30. Vraiment, quoi. Le temps de préparer le corps, le temps de vivre après les postures, de faire un temps où c'est important que les personnes aient le temps, elles aient cette sensation de liberté après le cours, de bouger quand elles le désirent. C'est elles qui le décident, c'est pas Thierry qui dit « levez-vous, on y va », quoi. Non, il y a des dimensions comme ça de responsabilité que je souhaite vivre et partager.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Alors, je sais que tu organises également des stages, des conférences. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ?
Alors, je fais des stages. Des conférences, non. J'ai jamais été sollicité pour faire une conférence. Mais je fais des stages. Là, dernièrement, j'ai fait un stage. Je crois que j'ai innové. J'ai fait yoga vélo. Donc, on a associé des pratiques de vélo. C'était sur la voie verte entre Mazamet et Saint-Mons-la-Trival. Il y avait 6 personnes. Donc c'était super sympa, on a partagé au niveau du cœur, c'était chouette. Plus associé à des pratiques posturales, des pratiques de respiratoire, bien spécifiques pour donner beaucoup d'énergie, etc. quoi. Et je propose également donc des stages plus ciblés là sur du perfectionnement. Des stages où je vais à la montagne et on se met nu dans la neige pendant 1 heure. Pour faire du dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on a un mental qui est très qui se limite. Et là, c'est pour aller un peu plus loin. Donc là, on va passer sur le travail de l'hormèse. Mais
Que tu peux nous expliquer le travail de l'hormèse ?
Le travail de l'hormèse, c'est on engendre des mini-stress. Des mini-stress, évidemment, on a la capacité du supportable. Donc, par exemple, on va prendre tout simplement des douches froides. Et ce qui va amener vraiment au niveau du corps un renforcement profond et de l'énergie. Puisque le corps, il va aller de l'avant, il va mettre tout en place pour parer justement à ce changement de température. Et il va se passer plein de choses. Plein de choses. Donc le travail de l'hormèse, ça peut être avec la respiration. C'est souvent sur les apnées. Donc ils peuvent être poussés un peu plus, évidemment dans la capacité de sa possibilité. Hein. Ça peut être donc avec le jeûne, ça peut être avec le chaud également, le froid.
Donc c'est vraiment la capacité que l'on a à pouvoir se dépasser dans des situations inconfortables, je dirais.
Exactement, parce qu'on vit, dans un cocon.
Oui.
Donc notre corps, on diminue notre potentiel. Il y en a qui appellent ça la loi de l'économie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre corps ne fait plus fonctionner quelque chose, ça diminue. Mais ça ne s'adapte plus, ça diminue. Enfin, c'est une manière de s'adapter à ce que ce n'est plus utilisé. Donc on va perdre plein de capacités et on a un potentiel énorme. Et ça, on peut le retrouver par exemple, cette énergie vitale exactement, on peut aussi capter cette énergie vitale dans tout ce qui est élément naturel. Donc, puisque je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche, qui fait des grosses randonnées où je suis seul et où je pratique le yoga, la respiration et la méditation. Et là, je suis seul. Et je pars 15 jours et je fais 300-400 km en montagne. Quoi. Voilà.
Donc, c'est quelque part, c'est un peu se challenger pour retrouver des énergies perdues ou des énergies qu'on ne soupçonne pas, d'ailleurs.
Le mot challenge est peut-être pas approprié puisqu'il va y avoir derrière un esprit un peu de compétition. Et le but, c'est pas ça, c'est de se redécouvrir. Je le verrais plutôt comme ça. Voilà.
Je l'accepte.
Plutôt comme ça. Ouais. Ensuite, donc, je propose ce type de stage. Et puis, le but, c'est de trouver sa nature ultime au niveau du cœur, puisqu'il y a beaucoup de voiles, beaucoup de barricades, de barbelés devant notre énergie du cœur. Et je pense que dans toutes les traditions, c'est comme ça. On dit qu'elle existe. Il y a une énergie au niveau du cœur qui est présente. Le cerveau, c'est que l'ordinateur. C'est tout, quoi. Donc après, parfois, il faut reprogrammer parce que ça ne va plus. Et ça, le yoga, donc la pratique du yoga, avec toute sa complexité, c'est-à-dire c'est une palette énorme, peut aider... à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel. Mmh. Ne plus être happé par tous ces nuages, être un peu au sommet d'une montagne. C'est peut-être pour ça que je veux toujours aller en montagne. Un jour, il y a une personne qui m'a vraiment aidé dans ma vie, qui m'a dit « Un jour, tu n'auras plus besoin d'aller sur les hauteurs.
» Ça voulait dire quoi?
Que je pourrais trouver ce que je recherche à l'endroit où je suis.
À l'intérieur.
À l'intérieur. Voilà. Bien. Donc, je suis comme tout le monde. Sur une recherche, j'ai envie d'être bien avec moi et évidemment de le partager. Et c'est là où je crois qu'il faut faire attention à la notion d'amour et de compassion. L'amour, c'est vraiment se souhaiter le bonheur et on ne peut donner que ce que l'on est, donc c'est le souhaiter aux autres. Et ensuite, la compassion, c'est vraiment se libérer, souhaiter de se libérer soi-même déjà de tous nos obscurcissements, tout ce qui engendre la souffrance. Et de souhaiter aux autres la même chose, de se libérer de tout ça, pour être bien. Après, on peut parler dans le monde du yoga de samadhi, c'est-à-dire d'un état vraiment de pleine conscience. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc après là, c'est des débats un peu philosophiques qu'il peut y avoir. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je propose aux personnes qui viennent... partager les cours avec moi, et je parle bien de partage parce que c'est pas facile de vivre du yoga, j'en fais pas un business, c'est mon choix, mais je souhaite partager vraiment cette vibration du cœur. Mmh. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, puisqu'il faut pas oublier que tout change. Là, notre corps a changé, ne serait-ce qu'une respiration, tout a changé, notre corps change.
Oui, c'est vrai que tu insistes beaucoup sur l'impermanence et c'est normal.
Oui, c'est tout à fait normal, ça fait partie du cursus, quoi. Et c'est...
surtout de savoir s'adapter,
changement. Le changement est présent dans la vie de chacun, depuis qu'on est petit jusqu'à maintenant, on a changé, on a des idées différentes, on change, et c'est ce qui est riche dans la vie aussi, c'est ce changement. Si on était des clones, ça serait d'une tristesse. Après, je ne crois pas à la possibilité d'un clonage, je ne sais pas comment il va évoluer, mais je crois que si on est tous orientés sur la voie du respect, de l'amour et de la compassion, de la joie, du bonheur, enfin on pourrait faire la palette, La terre s'emporterait mieux. Il suffit juste de se dire trois mots avant d'aller, avant de se coucher et en se levant. Contentement, bienveillance et gratitude. Rien que ça, tout le monde peut être touché par ces trois mots. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Posons-nous la question. Qu'est-ce que c'est qui est essentiel pour nous? Et ça, sans se prendre la tête, on peut après rentrer évidemment dans des méditations analytiques qui peuvent être intéressantes pour justement se libérer d'un fonctionnement. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pratiquer 10 heures de yoga par jour? Et si c'est pour avoir une vie de merde, excusez l'expression, une vie difficile où on va cracher sur les autres, où c'est l'ego dans toute sa splendeur qui va ressurgir, et où ça va être dans la possession, etc.
Non, oui, les deux vont pas bien ensemble, hein, voilà, quand même.
Après,
alors, ouais, c'est quand même une philosophie de vie, c'est un art de vie. Alors, pour les personnes qui sont, voilà, on est à Toulouse ici, on est quand même assez sollicité par le mouvement, par la rapidité, par voilà, les contraintes quotidiennes. Comment une famille ou quelqu'un, voilà, qui est quand même occupé 8 heures par jour au travail, qui a une famille à gérer, qui a plein de choses comme ça, comment peut-elle développer cette philosophie? Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de s'intéresser ou de s'initier au yoga? Combien de temps elle doit y consacrer au début? Ou comment, voilà, comment entrer dans cette pratique, dans cet art?
Donc il existe, comme je l'ai formulé tout à l'heure, plusieurs types de yoga. Donc moi je parle de ce que je connais vraiment, c'est le Hatha Yoga. Donc une personne par exemple qui voudrait expérimenter, il faut qu'elle trouve un cours, que ce soit pas trop contraignant, si possible près de chez elle, pour pas qu'elle ait un trajet à faire, surtout s'il y a déjà des journées contraignantes, et quel est le feeling avec la personne. Mmh. Qu'importe que ce soit un homme, une femme, une personne plus âgée, une personne plus jeune, qu'importe, mais il faut vraiment le sentir. De toute façon, tout est impermanent. Donc à partir de là, on a le feeling avec quelqu'un, et puis s'il faut quelque temps après, on n'aura plus le feeling, et c'est pas grave, c'est la vie. Et ensuite, je pense que là, c'est essayer d'avoir, de prendre de la hauteur vis-à-vis de sa vie, de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie? Ça peut ne rien changer, si vous êtes bien, continuez. Mais si y a un petit malaise quelque part, ou si on sent un malaise dans son conjoint ou sa conjointe, on va parler d'amour, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc c'est de l'écoute, c'est être attentionné vis-à-vis de l'autre. Ça ne veut pas dire ne pas se positionner, mais c'est... voilà, je suis là, je t'aime, et on va trouver une solution pour construire quelque chose à deux. Et obligatoirement, s'il y a cette vibration de partage, ça sera en résonance avec les enfants. Et si les enfants sont perturbés, c'est souvent un petit peu la cause des parents. Après, ils ont leur schéma, évidemment. Mais ça, bon, une fois qu'on a cerné un peu nos propres schémas, l'enfant, ce qu'il a envie, c'est de voir ses parents heureux. Je crois, il me semble.
Je pense que tu as raison.
Je crois que c'est ça le principal. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Une pratique déjà de yoga pour connaître son corps, être mieux dans son corps. Ça, c'est une première chose. C'est pas obligé. Ça peut être en faisant. Il y a des yogas qui sont beaucoup plus doux, qui vont aller vers plus de la méditation, des mouvements, plus de relaxation. Et c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait différents types de yoga. On est tous différents.
Est-ce que tu ne crois pas que la principale difficulté pour les gens, de manière générale, hein, je parle, c'est justement ben, quand ils s'amènent à découvrir une pratique, ils pensent que les choses viennent de l'extérieur, viennent de l'enseignant, viennent de tout ça, et ils se disent « il va faire des miracles, ça va changer ma vie », etc. Alors qu'en fait, la principale chose à faire, c'est déjà de se tourner vers l'intérieur, c'est de là que ça part, non?
Tout vient de là. Mais ça, c'est, je suis vraiment absolument d'accord. On a besoin parfois d'être aidé, d'être guidé, mais c'est hyper important. Il faut être prêt. Accepter aussi de ne pas être prêt parfois. Parfois, on ne peut pas amener un changement profond dans sa vie, mais ne pas subir. Là, il faut dire, oh là, si ça ne nous plaît pas, ben, on change. Il y a la possibilité, c'est nous qui nous mettons des barrières. C'est vibratoire. Hein. Donc, quand je dis que c'est vibratoire, c'est tout vient de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intention de départ. Si on a vraiment envie d'un changement profond dans sa vie, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si on est vraiment sincère et honnête et intègre avec soi, ça, obligatoirement, ça sera avec les autres, et là, ça sera favorable. Enfin, un changement qui sera favorable et juste pour tout le monde, cette forme de justesse. Alors, la pratique du Hatha Yoga va, puisque c'est intimement lié avec l'esprit, va arriver aussi à prendre un peu de hauteur vis-à-vis des événements. Je ne dis pas recul, parce que recul, il peut y avoir une notion de perdre sa place. On n'est pas là pour perdre sa place, pas du tout. On est là pour prendre de la hauteur vis-à-vis de tous ces événements. N'oublions pas qu'ils sont éphémères. Autant les événements hyper amoureux, on tombe amoureux de quelqu'un, et puis du jour au lendemain, pour X raisons, ça peut basculer. On peut avoir des périodes super difficiles, et pareil, du jour au lendemain, l'autre, ça peut basculer aussi. Vu que c'est l'impermanence, c'est pas que sur les côtés positifs, hein, bien sûr, c'est aussi sur les côtés négatifs, tout peut être changé. Et je pense qu'en prenant vraiment de la hauteur vis-à-vis de tous les événements, on va parler de tous les événements tels qu'ils soient, on peut arriver à une forme de petite sagesse, je dirais petite sagesse, parce que c'est pas évident, et même pour moi, parce qu'on est pris parfois dans des trucs qui nous happent, quoi, dans des ouragans. Et c'est de suite prendre vraiment de la hauteur, respirer, faire quelques respirations profondes pour ne...
Prendre de la hauteur, c'est ne plus focaliser sur le problème.
Exactement. Voilà. Prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire on peut monter sur une montagne, on pourrait aller sur la tour Eiffel peut-être pour certains, mais ce n'est pas ça. C'est juste
s'observer.
Tout à fait. Voilà. C'est ce que je voulais exprimer, oui, tout à fait. Et pour avoir une forme de ce qu'on peut appeler de l'équanimité, c'est-à-dire une forme d'égalité vis-à-vis de tous les événements. Ce ne sont que des événements. Et là, on commence à aborder, en fait, une pratique de l'esprit. Parce que pour toutes ces traditions, le Hatha Yoga, une des définitions, c'est vraiment diminuer toutes ces fluctuations mentales. Notre esprit, il est fait pour avoir des pensées, des émotions. Et le but, c'est vraiment de ralentir ce flot, quoi. On pourrait dire qu'il y a différentes sortes de pensées. Il existe des pensées primaires et des pensées secondaires. Une pensée primaire, on est assis, on a froid. Et on va se dire, ah, j'ai froid, et on va se mettre une couverture, ou on va mettre quelque chose, ou on va respirer pour justement diminuer cette sensation de froid et revenir vers soi. Où on peut rentrer dans des pensées secondaires et commencer à accuser un tel, puisqu'on lui avait dit de fermer la porte, il ne l'a pas fait, et je lui avais dit, c'est toujours pareil. Et là, on commence à rentrer dans des schémas mentaux pas possibles, quoi, et qui ne servent absolument à rien. Avoir un ego, ça peut servir, puisqu'il faut être content de ce que l'on met en place, être satisfait de sa vie, mais progressivement, après, on passe à autre chose. Mmh. C'est tout un cheminement. Pour certains, ça va demander des vies, sans parler de réincarnation, mais pour certains, vont dire que ça va demander des vies et des vies. Qu'importe, le but, c'est d'être bien, de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et moi, j'aime les personnes qui essayent de trouver une solution, qui ouvrent les bras, qui... Bon, parfois, c'est trop dur, mais il y a toujours des solutions. Mais ça demande vraiment une écoute des deux, une attention des deux. Entendre aussi... L'autre, ça demande de prendre du temps, se respecter. Ça s'apprend. On ne sait pas toujours le faire. Mais je peux parler pour moi aussi. J'ai fait des erreurs parfois parce que je n'ai pas su entendre le message de l'autre. Et c'est toujours, même si c'est une expérience qui est difficile, qui peut enchaîner des choses, des ruptures, etc. Voilà, c'est quand même riche puisque ça amène des changements profonds et on n'a plus envie de répéter, etc. Ces situations-là.
Merci Thierry. Alors l'émission touche à sa fin. Moi j'ai eu grand plaisir à t'accueillir. On a vécu quand même ces derniers temps pas trop faciles, hein, avec tout cet arrêt et puis progressivement cette reprise à la vie quotidienne entre guillemets normale. Toi, est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs en ce moment qu'ils pourraient peut-être appliquer ou un conseil à leur donner ?
De suite que ça va pas, se dire la vie est belle. Et prendre un peu de... Voilà, vous n'allez pas bien, il y a quelque chose qui... Ben vous prenez un petit peu de hauteur, non en essayant de compenser en prenant de l'alcool ou autre substance, ce qui peut être parfois utile quand c'est trop difficile. Substances parfois qui sont autorisées aussi, hein, par la médecine. mais essayer d'aller se promener, de rentrer en contact avec la nature, puisque la nature, elle est là, elle nous offre cette énergie vitale. Et ça peut vraiment faire du bien, mais pour ça, il faut en avoir le désir. Donc, il faut changer sa manière de voir les choses. Et c'est tout un cursus, quoi. C'est-à-dire que chaque événement est important. Qu'est-ce qu'on en fait ? Sans rentrer dans une agitation mentale, parce que là, on reproduit la même chose. Mais tout simplement de se dire, ok, il s'est passé ça. Je souffle, je ne rentre pas dans la culpabilité. Je fais ce que je peux. Et tout va bien se passer, j'ai confiance en la vie.
Voilà, c'était un beau message de fin. Avoir confiance en la vie. Merci beaucoup Thierry. C'était Énergie Violette, une émission d'Adeline Coursant avec à la technique Shelly. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Je vous dis namasté à vous les amis. Prenez soin de vous et à bientôt.